France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Doliprane, responsable de l'autisme, baisse du financement de la recherche sur les vaccins ARN messagers, conseils médicaux erronés. Le second mandat de Donald Trump prend ces dernières semaines le virage du charlatanisme envers la science et la médecine. En janvier 2025, la nomination de Robert Kennedy Jr. au poste de secrétaire d'État à la santé donnait déjà le ton. Le neveu de JFK affirme en effet depuis des années que les vaccins seraient responsables de l'autisme. Depuis quelques semaines, il intensifie encore la réforme des agences fédérales de santé, licenciement, baisse de financement, appel aux citoyens à ne plus se laisser dicter les lois sanitaires pour les scientifiques. Alors, stratégie politique ou virage anti-science, de quel mouvement Robert Kennedy Jr. est-il le représentant? Et une personne pour nous éclairer ce soir, Elisa Schell, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre. Vous venez de publier cet ouvrage intitulé « La démocratie à l'épreuve du populisme ». C'est aux éditions Odile Jacob. Et pour m'accompagner dans cette interview, Julien Bisson, bonsoir Julien.
Bonsoir Quentin.
Vous êtes le directeur des rédactions de l'hebdomadaire Le 1. Merci à tous les deux d'être présents ce soir dans Question du soir.
I just recommend strongly that you don't use Tylenol, unless it's absolutely necessary.
Je vous recommande vraiment de ne pas utiliser de Tylenol, sauf en cas de nécessité absolue. Je comprends que 10% des femmes enceintes soient obligées de l'utiliser, dans le cas où vous ne pourriez pas tenir le coup, quoi que vous fassiez. C'est à vous et votre médecin d'en décider. Je veux juste dire les choses telles qu'elles sont. Ne prenez pas de Tylenol. N'en prenez pas.
Donald Trump qui déconseillait le 23 septembre dernier aux femmes enceintes de prendre du paracétamol. Elisa Schell, comment expliquer que le président américain tienne de tels propos de charlatan ?
Alors, il se réfère d'abord à une vieille controverse aux États-Unis sur le paracétamol, qu'on ne connaît pas du tout en Europe. Mais aux États-Unis, depuis la commercialisation du paracétamol, on pointe le risque pour le foie. Effectivement, si vous prenez trop de paracétamol, ça fait
mal. Ça, c'est plutôt vérifié, en revanche.
Oui, ça, c'est tout à fait vrai. Aux États-Unis, on commercialise le paracétamol par des grandes contenances. J'ai ici...
Vous en avez un dans la main.
Oui, je vous montre une boîte de 150 capsules de paracétamol, ce qui est un petit format. Donc c'est à peu près 10 boîtes de Doliprane, ou paracétamol pour les génériques. C'est l'équivalent de 10 boîtes et ça va jusqu'à 500. Et ça a été très controversé, ces contenants, parce que c'est une incitation ou en tout cas une modération insuffisante pour ne pas en consommer trop. En Europe, il y a des réglementations. Si vous achetez une boîte de paracétamol, il y aura toujours la même quantité, que ce soit quel que soit le dosage. Donc, il se passe là-dessus. Ça a été une controverse en 2009, donc bien avant Trump. La FDA, donc l'agence de régulation du médicament, avait effectivement dit que il fallait mettre des messages d'avertissement sur les boîtes. Donc Donald Trump se réfère à une controverse ancienne aux États-Unis. Et de plus, et c'est là où c'est particulièrement retors, il se réfère à une étude scientifique. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, il y a une étude scientifique qui est sortie qui a montré une corrélation, mais pas une causalité. Mais là, je suis dans une subtilité qui dépasse tout à fait le discours trumpiste. Mais une corrélation entre...
C'est-à-dire deux phénomènes qui avancent en même temps, mais qui n'ont pas nécessairement de lien entre eux.
Exactement. Donc, une étude a mis en avant une corrélation entre la prise de paracétamol et l'autisme chez les femmes enceintes, mais a été incapable de démontrer le lien de causalité. Donc, deux choses peuvent apparaître simultanément sans avoir de lien. Mais évidemment, avec l'hypersimplification, on n'y est pas du tout. Et la troisième raison pour laquelle Trump se lance dans ce sujet, parce qu'on pourrait se dire, mais pourquoi tout d'un coup, il se dit, mais tiens, je vais faire une déclaration sur le paracétamol. Et pourquoi à ce moment-là, puisque c'est la veille de la réhabilitation de Jimmy Kimmel qui avait été suspendu, dont il avait prétendu qu'il était à l'origine de la mise à pied, et il a fait un coup médiatique, véritablement, puisque sa déclaration sur le paracétamol a déclenché une avalanche de réactions de la part des agences, etc., qui ont réfuté ce qu'il a affirmé. Et ça a complètement noyé le retour de Jimmy Kimmel à l'antenne, qui a été certes couvert par les médias, mais bien moins que ses déclarations sur le paracétamol.
Vous êtes également interrogé par Julien Bisson.
Oui, Elisa Schell, est-ce que ces déclarations sur le paracétamol, ça traduit une forme de conviction de la part de Donald Trump sur cette question sanitaire, ou est-ce que c'est finalement une forme d'opportunisme pour plaire à un certain électorat ?
Alors, les convictions de Donald Trump, il faut être bien informé pour savoir ce qu'elles sont. Je crois que Donald Trump est un stratège, c'est-à-dire, ou en tout cas un tacticien. C'est-à-dire un stratège, il fait des stratégies à long terme, il pense à plusieurs coups, la tactique, bon, il fait un coup pour faire l'événement. Je crois qu'il fait un calcul politique et il se dit que ça va effectivement fonctionner. Et d'ailleurs, RFK Jr. est sur la même ligne. Il réactive sans cesse des controverses sur la santé aux États-Unis, que ce soit par exemple que ce soit sur la question de l'autisme, mais aussi sur la question du fluor dans l'eau, autre controverse spécifique aux États-Unis. Dans les années 40, il y a des experts américains qui se disent « Tiens, on mettrait bien du fluor dans l'eau pour améliorer la dentition des Américains ». Et puis, bon, c'est assez contesté. Et puis, très longtemps après, plusieurs décennies après, on se rend compte qu'il y a quand même un certain danger pour la santé publique. Et donc, c'est resté une controverse de la question de la fluoration de l'eau, qui est d'ailleurs toujours en vigueur, mais qu'on n'a pas en France. Donc, ce type de sujet qui peut sembler complètement périphérique et anodin est en fait au cœur de controverses américaines et sont récupérées par des groupes, des associations conspirationnistes ou des mouvances qui vont accentuer ce genre de choses et qui, en gros, pensent que il y a des gens quelque part qui veulent empoisonner les Américains.
L'autre sujet d'actualité, Elisa Schell, date du 18 septembre dernier. C'est la date qui signe la fin de l'obligation vaccinale aux États-Unis. Je parle d'obligation vaccinale au niveau fédéral, on fera la distinction avec les États. Là encore, pourquoi l'administration de Donald Trump se lance dans une bataille contre cette obligation vaccinale ?
Alors, le mouvement anti-vax est ancien aux États-Unis, mais il a été réactivé par la pandémie de Covid. On a bien vu avec les restrictions de liberté, les vaccins obligatoires dans certains États, le port du masque. Donc tout ça, ça a réactivé tous ceux qui étaient contre la régulation médicale au niveau politique.
Qu'est-ce que ça représente, pardonnez-moi, en volume, en importance politique dans le pays ?
C'est très difficile à chiffrer parce qu'en réalité, c'est assez composite. C'est-à-dire qu'il va y avoir des tendances plutôt conspirationnistes qui vont y voir vraiment un mal sourd et rampant. Il y a aussi des familles qui ont des convictions religieuses. Donc, aux États-Unis, on peut obtenir aujourd'hui, dans beaucoup d'États, des exemptions d'obligation vaccinale en raison de sa religion, mais aussi en raison de ses convictions personnelles. Et ça... C'est pas du tout Donald Trump, c'est la jurisprudence américaine. Il y a une quinzaine d'années, une infirmière donc qui travaille dans le milieu de la santé et à qui on demande de se vacciner contre la grippe, eh bien refuse et dit non, moi je suis végane et donc je pense qu'il y a des composants animaux dans ce vaccin et donc je ne veux pas être vaccinée. Son cas passe devant la justice et la justice tranche en sa faveur en disant que sa conviction personnelle doit prévaloir. Les États-Unis, c'est un pays qui revendique la liberté. D'abord, plus que l'égalité.
On reviendra sur cette notion de liberté, évidemment. Mais avant cela, Julien Bisson.
Est-ce qu'on peut déjà mesurer la baisse de la couverture vaccinale aux États-Unis ? Et est-ce qu'on voit les effets de ces politiques qui vont baisser ces obligations vaccinales ?
Alors, pour l'instant, c'est un peu tôt pour dire, puisque les schémas vaccinaux sont d'abord édictés au niveau des États. En fait, le rôle de l'Agence de santé publique fédérale, c'est d'édicter un calendrier et des recommandations. Voilà, on vous recommande pour les enfants de tel âge, etc., ou les rappels, de les faire à tel et tel moment de la vie et de l'année. Ça, c'est l'essentiel du pouvoir fédéral. Après, il y a certaines professions qui sont concernées. Mais pour l'essentiel, c'est au niveau des États que ça se joue. Donc, ça veut dire que ce que dit Donald Trump maintenant au niveau fédéral va avoir un impact très disparate en fait en fonction des États, puisque les États qui sont typiquement démocrates vont de toute façon avoir une législation plutôt protectrice du point de vue de la santé publique, et les États républicains vont plutôt tendre vers une législation ouverte. Donc en réalité, je pense que Trump fait d'abord de la communication, il réactive ces sujets qui sont importants pour son électorat depuis le Covid, mais qui ne sont pas aujourd'hui au cœur de la vie politique américaine.
Mais Elisa Schell, si on a la mémoire pas tout à fait courte, Trump n'est pas un anti-vax lui-même. Enfin, je veux dire, pendant le Covid, il a été celui qui a promu, qui a été tellement fier que le vaccin contre le Covid soit développé aux États-Unis et qu'il arrive très très vite.
Elisa Schell.
Mais oui, tout à fait. D'ailleurs, souvenez-vous de cette séquence célèbre où il dit « Ah, ça serait peut-être bien de pouvoir s'injecter une forme de détergent qui nous nettoierait le sang, etc. » Donc ça avait fait rire tout le monde, ça avait été repassé à l'envi. Donc non, il n'est pas du tout anti-vax. C'est pour ça que je crois que Donald Trump est surtout opportuniste. Et RFK Jr. a dit une chose et son contraire. Et si on regarde ses déclarations ces dernières années, il a dit non, je ne suis pas anti-vax. Et puis après, il a dit oui, mais je veux alerter quand même sur les risques de la vaccination. Et donc, il a fait ça aussi sur plusieurs sujets, l'avortement, etc. Donc, tout ça, c'est un opportunisme politique pour séduire des catégories de la population américaine qui peuvent adhérer à ce genre de discours qui, il est vrai, n'est pas très répandu ici en France et qu'on a du mal à comprendre.
On comprend bien en vous écoutant, par ailleurs, que se joue une bataille extrêmement politique entre l'État fédéral et les États fédérés, entre les États républicains et les États démocrates. Comment est-ce que les démocrates font face, justement, à ce mouvement anti-santé, anti-science ? Comment se réapproprie-t-il cet objet de politique publique qu'est la santé ?
Alors pour l'instant, les débats sur la santé par les démocrates ont lieu au Congrès, puisqu'on est encore en plein shutdown, donc un gel budgétaire en raison d'une absence d'accord. Et le débat porte sur l'Obamacare, donc la couverture d'assurance santé. Les démocrates veulent qu'il y ait une véritable continuité dans cette politique publique, alors qu'un certain nombre de républicains veut diminuer. Trump avait promis qu'il abrogerait cette grande loi santé Obama, ce qu'il n'a jamais fait. Une autre promesse utile pour galvaniser son camp, mais qui n'a pas été suivie d'effet. Les démocrates peuvent aussi se mobiliser pour les schémas vaccinaux au niveau des États. Dans les États et les localités qu'ils contrôlent, là, ils peuvent se mobiliser. Dans les associations liées à la santé publique, ils peuvent aussi se mobiliser, même si elles peuvent être fragilisées par des baisses de financement. Donc partout où les démocrates contrôlent les exécutifs, ils peuvent davantage protéger la santé.
On va s'intéresser à l'homme dont on parle en creux depuis le début de cet échange, RFK, Robert F. Kennedy Jr. Il s'exprimait le 9 septembre dernier sur la chaîne MSNBC.
Nous sommes le pays le plus malade du monde. 76,4% des Américains souffrent d'une maladie chronique. Quand mon oncle était président, c'était 11%. En 1950, c'était 3%. Nous sommes le pays le plus malade du monde. Nous avons plus de malades chroniques que n'importe quel autre pays du monde. Et pourtant, nous avons plus de dépenses de santé que n'importe quel autre pays du monde. On dépense 2 à 3 fois plus que ce que dépensent les nations européennes. Nous dépensons presque autant dans notre pays que tous les autres pays du monde réunis. Et pourtant, nous avons les pires résultats en matière de santé. Nous avons perdu 6 ans d'espérance de vie dans les 20 dernières années.
Robert F. Kennedy Jr. Et la parole vous est donnée, Julien Bisson.
Oui, Elisa Schell, on l'a rappelé, c'est le neveu de JFK. Il était démocrate, il était candidat indépendant à la présidentielle américaine. Comment expliquer sa présence au gouvernement aux côtés de Donald Trump aujourd'hui ?
C'est une véritable prise de guerre pour Donald Trump. C'est aussi un symbole, un ancien membre du clan démocrate Kennedy. Donc c'est vrai que c'est un coup politique pour Trump. Alors comment expliquer sa présence ? Kennedy s'est effectivement d'abord désolidarisé du Parti démocrate, voyant qu'il n'avait pas de possibilité de passer le filtre des primaires. Donc il s'est présenté en tant qu'indépendant et il n'a été soutenu par aucun parti en spécifique et il a présenté sa candidature dans un certain nombre d'États. Ce qu'on ne sait pas, c'est à quel point il a pu être soutenu en coulisses par le Parti républicain pour déstabiliser la campagne démocrate. Puisque son ralliement arrive comme un coup de théâtre, mais on sait que ces ralliements sont toujours préparés, font l'objet de longues tractations. Donc on retrouve Robert Kennedy Jr. Parce que c'est un conspirationniste de gauche, on pourrait dire. Donc, il rallie cette tendance-là. Il a une figure de dissident par rapport à son camp. Il s'est longtemps mobilisés sur les causes environnementales et sur la santé environnementale, donc la pollution, la qualité de l'eau, la qualité des sols, de l'air, etc.
Certains craignaient même qu'il devienne ministre de l'Environnement.
La nutrition. Oui, et d'ailleurs, c'est intéressant finalement qu'un spécialiste de l'environnement devienne ministre de la Santé. Donc bien sûr, il y a un point de jonction entre santé et environnement, mais ça n'épuise pas l'ensemble. Il n'est pas médecin, mais comme d'autres avant. Et Kennedy est assez populaire parmi aujourd'hui les personnalités républicaines. Si vous regardez le sérieux site YouGov, qui est un institut de sondage britannique, donc rien de trumpiste, on peut voir que Kennedy, c'est la troisième personnalité républicaine la plus populaire. Juste après Donald Trump et juste avant J.D. Vance, le vice-président. Donc, Kennedy, c'est une figure qui a une audience véritable aux États-Unis. Alors, il n'a pas un taux de popularité considérable, 33% alors que Trump est à 35%, mais ça reste quand même l'une des figures les plus en vue chez les républicains aujourd'hui.
Pour relativiser un mot, son poste, celui de secrétaire d'État à la santé, est tout de même relativement peu important. Il structure en revanche un mouvement, alors on connaissait les MAGA, les Make America Great Again, lui il structure un mouvement qui s'appelle les MAHA, M-A-H-A, une galaxie éclectique qui inclut des influenceuses en nutrition, des militants anti-vaccins, des figures de la droite conservatrice américaine. Comment mobilise-t-il, comment tient-il toutes ces personnes, tous ces individus ensemble ?
Ben justement par ces déclarations continuelles, donc sur le fluor, sur l'autisme, sur la vaccination, il a pris récemment position en faveur de l'interdiction de l'expérimentation animale, donc quelque chose qui est plutôt fédérateur dans une partie de l'électorat. Il utilise aussi sa femme vient de publier des mémoires dans laquelle elle dit qu'elle n'est certes pas toujours d'accord avec son mari. Ça nous rappelle d'ailleurs une petite musique, celle de Melania Trump, qui avait aussi publié ses mémoires pour dire que certes, elle n'était pas toujours d'accord avec son mari, mais que le dialogue était possible et que l'important, c'était de prendre en compte l'avis des familles. Donc, il joue cette carte. Les mémoires viennent juste de sortir. Donc, il est véritablement populaire et a une audience dans l'électorat républicain.
Et on le précise, MAHA, ça signifie Make America Healthy Again, rendre à l'Amérique sa santé, Julien Bisson.
Oui, l'année dernière, quand il faisait campagne, Robert F. Kennedy faisait campagne en parlant des maladies chroniques, en voulant s'attaquer aux industries agroalimentaires, aux pharmaceutiques, en essayant de promouvoir une meilleure qualité de vie, en s'attaquant aux pesticides, en s'attaquant à la malbouffe. Tout ça pourrait être tout à fait positif. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, est-ce qu'il s'est renié par rapport aux engagements qu'il voulait essayer de prendre l'année dernière dans le programme qu'il veut défendre?
Alors, dans son programme, il y avait toujours la question de la malbouffe, surtout pour les cantines scolaires. Donc, faire en sorte que les enfants ne mangent plus d'aliments ultra transformés. Il est vrai que Kennedy Jr., donc l'un de ses autres atouts, c'est qu'il est anti-establishment et qu'il a lancé d'ailleurs dans sa carrière des procès contre le grand Monsanto, qui est un géant vraiment de l'agroalimentaire. Et ça, ce côté anti-establishment, on va lutter contre la corruption et faire valoir les intérêts du peuple. Il y a aussi la question des sodas qui est régulièrement débattue aux États-Unis. Donc c'est complètement dans la ligne populiste du discours de Trump qui consiste à protéger ou à venger le peuple face à des forces de l'argent. On sait que Trump s'est beaucoup attaqué à l'industrie pharmaceutique. On parlait tout à l'heure dans l'extrait des dépenses de santé. Effectivement, les dépenses de santé sont très importantes aux États-Unis, mais la santé est aussi le premier secteur économique du pays devant la finance. Donc, on est face à des géants et la défense des petits contre les gros, c'est quelque chose qui fonctionne électoralement.
Une autre voix dans cette seconde partie de questions du soir, celle de Lia Wilson, dans un entretien avec le docteur Tony Ebel sur la chaîne YouTube The PX Doc. C'était le 1er juillet dernier.
La science est un piètre gouverneur. Elle peut changer du jour au lendemain, être achetée et payée, être corrompue et manipulée. Et l'industrie dispose de tous les fonds nécessaires pour écrire sa science et éliminer celle qui lui déplaît. La science est un piètre gouverneur et c'est pourquoi nous nous appuyons sur la constitutionnalité, les données et le bon sens pour influencer les politiques. Avec un gouvernement limité, le cœur des décisions étant prise au sein du foyer, notre liberté de santé est préservée.
Il y a en creux, Elisa Schell, dans ses propos, l'idée, au fond, de ce que les Américains appellent la liberté médicale, un concept qui a des racines extrêmement profondes dans l'histoire du pays. Alors d'où vient cette idée et comment se fait-il qu'elle vive encore si fortement au XXIe siècle ?
Alors, d'où vient cette idée ? Elle vient de plusieurs courants. Donc, il y a le courant libertarien aux États-Unis qui prône le fait que l'État doit intervenir le moins possible.
Et c'est vraiment ce qu'on entendait là dans ces propos. Hein.
Absolument. Propos et la politique de santé, c'est la politique publique qui intervient sur votre corps directement. La vaccination, l'accouchement, l'avortement, ça intervient dans votre vie privée directement. Donc, c'est quelque chose qui peut être considéré comme attentatoire à une liberté individuelle et face à son corps. Donc, en plus, aux États-Unis, il y a historiquement un courant anti-intellectuel. Et là, on l'entend très bien dans l'extrait, c'est-à-dire l'intellectualisme, c'est pas bien, les experts, la science, ce qui compte, ce sont les préférences du peuple, les priorités politiques telles qu'elles sont fixées. Et on ne veut pas entendre parler de ces experts, de ces crânes d'œufs.
La science est un piètre gouverneur, dit-elle.
De ces crânes d'œufs qui nous disent quoi faire dans un langage qu'on ne comprend pas. Et en plus, à cela s'ajoute la troisième composante de l'histoire américaine, c'est le style paranoïaque de la vie politique qui vient renforcer tout ça avec une petite sauce conspirationniste qui vient augmenter encore les enjeux de tout ça. Donc, effectivement, ce discours-là, il est ancré dans l'histoire américaine.
Julien Bisson.
Est-ce que Trump n'est que le réceptacle, finalement, de cette défiance vis-à-vis de la science, de ces conspirationnistes, ou est-ce que lui-même, finalement, alimente, nourrit ce discours ?
Oh bah Donald Trump nourrit tous les discours qui le servent. Donc il n'a pas d'idéologie particulière. Il a eu des opinions variables sur un certain nombre de sujets. Donc il est le président d'une démocratie. Il est soumis à des échéances électorales et il va chercher des gens qui sont plutôt éloignés de la politique traditionnelle, qui n'y s'y intéressent pas forcément. Et la santé permet justement de connecter avec un univers politique qui peut sembler distant. Il va chercher ses électeurs en leur servant un discours qui est susceptible de les séduire, sachant que, je le rappelle, les deux tiers de l'électorat américain n'a peu ou pas de diplôme, ce qui rend encore plus saillant ce type de discours.
Il fallait revenir, Elisa Schell, sur une autre et ultime actualité en matière de santé américaine. Robert Kennedy Jr. a annoncé il y a quelques semaines, quelques jours même, l'arrêt des financements des projets liés à la recherche et au développement des vaccins ARN messagers soutenus par l'Autorité américaine pour la recherche et le développement biomédical. Là aussi, comment comprendre une telle décision ? On aurait pu se dire, dans le fond, l'innovation, l'accompagnement des entreprises, c'est quelque chose qui correspond plutôt à la politique de Donald Trump, notamment dans d'autres secteurs. On pense à l'intelligence artificielle.
Oui, mais les vaccins à ARN messager, cette technique a été particulièrement critiquée par les milieux conservateurs.
Pourquoi celle-ci en particulier ?
Parce qu'elle manipule du matériel génétique qui est considéré comme relevant du droit à la vie.
Donc c'est une question éthique bien plus que sanitaire ?
Ah oui, c'est une façon de séduire ces milieux conservateurs qui et religieux qui s'attaquaient à ce type de recherche touche à la question des recherches sur l'embryon, etc. Donc de la manipulation de matériel génétique qui est considéré comme relevant de la personne humaine.
Julien Bisson.
Est-ce que ça signifie qu'il y a un péril sur les recherches menées par des laboratoires dont on connaît désormais le nom, Moderna, BioNTech, qui avaient vraiment lancé des recherches très 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 innovantes sur ces questions sont là pour le cancer, pour beaucoup d'affections. Est-ce qu'il y a un péril sur ces recherches-là ?
Alors, il faudra voir pour combien de temps. Effectivement, pour l'instant, les financements sont suspendus, mais les cycles démocratiques sont ce qu'ils sont. Si une majorité au Congrès vient à changer prochainement, c'est le Congrès qui vote le budget, hein, il faut le rappeler. Donc, cela pourra à nouveau évoluer. Donc, encore une fois, oui, ces recherches peuvent être mises en sommeil pour un temps et seront peut-être relancer plus tard à la faveur d'un changement de majorité.
Merci beaucoup, Elisa Schell, de ces explications de vos lumières. Vous êtes professeure de sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre. Vous venez de publier l'ouvrage passionnant intitulé « La démocratie à l'épreuve du populisme ». C'est aux éditions Odile Jacob. Et je me tourne vers vous, Julien Bisson, car il y a une double actualité cette semaine pour l'hebdomadaire Le 1. L'hebdomadaire, pour commencer, qu'est-ce qu'on y trouve, justement ?
Eh bien, on se demande c'est qui les patrons. À l'heure où la France cherche des dirigeants, on se penche sur ceux qui dirigent notre économie.
Seconde actualité. Légende, une légende en particulier.
Oui, Légende, c'est la revue des grands portraits du 1 et ce nouveau numéro est consacré à Robert Badinter, évidemment, qui entre au Panthéon demain. Des entretiens, des regards de ceux qui l'ont connu ou encore le texte intégral de son discours pour l'abolition de la peine de mort.
Merci à vous deux de ces échanges et merci à celles et ceux qui ont fait cette émission. Bertie Bourdon, Rodi Eken, Roxane Poulain à la réalisation. C'était Léa Racine et à la technique ce soir, Olivier Arnay.